Chapitre 4. La lenteur du monte-charge l'exaspérait. Le plafond surplombait de 8 ou 10 mètres un plancher d'environ 20 mètres de côté, traversé par 4 sillons parallèles. Ils doivent s'en servir pour déplacer des objets très encombrants, pensa Richard. Il tenta de calculer la vitesse de la descente, mais c'était impossible en l'absence de tout point de repère. Selon sa carte du cylindre, les réserves de Pastèque-Man se situaient à 1100 mètres d'altitude. Pour aller jusqu'au pied de la tour dans un ascenseur de la Terre, le voyage durerait plusieurs minutes. Ce furent les 180 secondes les plus longues de son existence, tant il était impatient de voir sur quoi les portes s'ouvriraient. Peut-être l'extérieur, à la bordure du secteur où se dressent les structures blanches? Se pourrait-il qu'il me renvoie là, d'où je viens? Il commençait à se demander quel bouleversement avait pu se produire dans le Nouvel Éden pendant son absence, quand le plancher s'immobilisa. Les panneaux s'ouvrirent et Richard eut le souffle coupé en voyant devant lui 2 créatures à l'aspect inimaginable qui le fixaient de tous leurs yeux. Il ne pouvait bouger. Saturé par le flot d'informations que lui adressaient ses sens, son esprit avait cessé d'exercer un contrôle sur son corps. Ces êtres avaient 4 yeux. En plus de 2 grands ovales laiteux placés de chaque côté de leur tête, ils possédaient 2 pédoncules oculaires d'une 10aine de centimètres dressés au sommet de leur front. Avec leur tête volumineuse, leur corps était divisé en 3 segments dotés de 2 appendices, ce qui faisait 6 membres au total. Ces extraterrestres se tenaient debout sur leurs 2 pattes arrière et gardaient leurs bras repliés contre leur bas-ventre lisse d'un blanc laiteux. Sitôt qu'ils approchèrent de lui, Richard recula dans la cabine, terrifié. Les 2 créatures commentèrent sa réaction par des sons en haute fréquence qui sortaient d'un petit orifice circulaire s'ouvrant sous leurs yeux ovales. Richard scia, eut un étourdissement et s'agenouilla pour ne pas s'effondrer. Son cœur battait follement. Les extraterrestres changèrent eux aussi de position et laissèrent reposer sur le sol leurs pattes centrales. Dans cette posture, ils ressemblaient à des fourmis géantes qui se seraient cabrées. À l'extrémité des pédoncules oculaires, les sphères noires pivotaient sans interruption pour balayer la scène sur 360 degrés, alors que la substance laiteuse des ovales bruns se déplaçait latéralement. Ils restèrent presque immobiles pendant plusieurs minutes, comme pour inviter l'homme à les examiner. Il tenta de surmonter ses peurs et de les observer objectivement en scientifique. Ces créatures avaient la taille d'un gros chien, mais devaient être moins pesantes. Leurs segments antérieurs et postérieurs étaient plus massifs que leur segment central, et tous étaient protégés par une carapace dure et brillante. Il les eût classifiés parmi les insectes si elles n'avaient pas eu ces appendices très épais, couverts de poils courts et drus, qui dessinaient des rayures blanches et noires et donnaient l'impression qu'elles portaient des collants. Leurs mains, si ce terme pouvait convenir, était dépourvu de système pileux et doté d'un pouce opposable aux 3 autres doigts. Richard venait de trouver le courage d'examiner à nouveau leur tête quand un gémissement rappelant le son d'une sirène s'éleva derrière elle. Elles se tournèrent et il vit un 3e Iti arriver d'un pas rapide et plein de souplesse. L'être courait comme un chat à 6 pattes. Il s'étirait parallèlement au sol pour se propulser avec une paire de membres différentes à chaque mouvement. Les 3 extraterrestres entamèrent une conversation, et le nouveau venu leva ses pattes antérieures pour faire signe à Richard de descendre de l'ascenseur. Il obtempéra et suivit le trio dans une immense salle. Elle contenait des réserves de Pastèque-Man, mais c'était le seul point commun avec les entrepôts de la partie supérieure du cylindre. Ici, tout était automatisé. Une sorte de pont roulant se déplaçait sur des rails fixés au plafond à 10aine de mètres de hauteur pour cueillir des fruits et les placer dans des wagons aux roues encastrées dans les rainures du sol. Un de ces véhicules s'ébranla et roula le long des sillons pour aller s'immobiliser à l'intérieur du monte-charge. Puis les Hittis filèrent dans un couloir et Richard se hâta de les suivre. Ils attendirent à une intersection, puis repartirent tout aussi rapidement sur la gauche en regardant derrière eux pour s'assurer qu'ils ne l'avaient pas semé. Richard courut pendant 2 minutes jusqu'à une vaste salle au centre occupée par un système de transport vaguement apparenté à un escalier mécanique. Il y en avait en fait 2, un pour la montée et l'autre pour la descente. Ils s'enroulaient en spirale autour de 2 gros piliers et leur vitesse était élevée, leur inclinaison importante. Sitôt qu'ils atteignaient le niveau suivant, les passagers devaient parcourir 1 mètre à pied pour aller prendre le tapis opposé. Ce qui servait de rambarde n'avait que 30 cm de haut et les extraterrestres empruntaient ce mode de transport en position horizontale avec toutes leurs pattes posées sur le tapis. Richard ne tarda guère à les imiter afin de réduire les risques de chute. Ils croisèrent 12 de voyageurs qui restèrent bouche bée en le voyant. Mais si cette ouverture est leur bouche, comment mangent-ils ? Se demanda Richard en constatant que le diamètre du trou circulaire était juste assez important pour leur permettre d'ingérer d'infimes quantités de nourriture. Il ne discerna aucun autre orifice dans la tête, seulement des protubérances et des touffes de poils dont il ne put deviner l'utilité. Ses guides le conduisirent jusqu'au 8e ou 9e niveau, puis le précédèrent dans un bâtiment hexagonal à la façade ornée de motifs rouges vifs. « C'est drôle », pensa Richard en observant les étranges gribouillis. « Il me semble avoir déjà vu ça. Mais oui, sur les cartes que consultent les aviens, si ce sont des cartes évidemment. » Il se retrouva dans une pièce bien éclairée et décorée de dessins géométriques noirs et blancs. Il était entouré d'objets de toutes formes et dimensions dont la destination restait un mystère. Les Hittis lui firent comprendre par des gestes qu'il devait rester en ce lieu, puis le laissèrent. Épuisé, Richard essaya de deviner quel meuble servait de lit, mais finit par renoncer et se coucha à même le sol. Des Myrmichas, voilà le nom qui leur convient le mieux. Il avait dormi 4 heures et ne pouvait penser qu'à ces extraterrestres. Il leur cherchait une appellation appropriée et après avoir rejeté fourmichas et chat-secte, il s'était souvenu que l'étude des fourmis s'appelait la myrmécologie. Sa chambre était lumineuse comme toutes les autres pièces. Le contraste était grand entre ce secteur et les galeries crépusculaires des étages supérieurs du cylindre. « Je n'ai pas vu un seul avien depuis que j'ai pris l'ascenseur. Ces 2 espèces vivent séparément. Ou presque. Leur régime alimentaire excepté, quel point commun peuvent-elles avoir ?» 2 Myrmichas franchirent l'entrée d'un bond. Ils déposèrent devant lui une pastèque manne découpée en tranches et un bol d'eau, puis repartirent. À peine eut-il terminé son petit déjeuner que les 2 créatures revinrent. En agitant les mains de leurs pattes antérieures, elles lui firent signe de se lever. Il les observa. S'agit-il du couple qui m'a apporté mon repas ou de mes guides d'hier? Il pensa à tous les Myrmichas qu'il avait eu l'occasion de voir, y compris ceux croisés dans l'escalier mécanique, et ne trouva aucune caractéristique qui lui eût permis de les différencier les uns des autres. Ils sont tous identiques. Il est impossible de les reconnaître. Ils le précédèrent dans le couloir et bondirent vers la droite. « C'est reparti !» se dit Richard. Il courait à petite foulée après avoir perdu quelques secondes à admirer leur démarche gracieuse. Ils doivent s'imaginer que tous les humains sont des athlètes. Un Myrmichas s'arrêta à 40 mètres. Il ne se tourna pas vers lui, mais l'homme sut qu'il l'observait, car ses pédoncules oculaires s'étaient inclinés dans sa direction. « J'arrive !» lui cria Richard, « mais je ne peux pas courir aussi vite que vous !» Il ne lui fallut guère de temps pour comprendre qu'il avait droit à une visite guidée de leur habitat. Le circuit suivait un ordre logique. Il vit deux wagons chargés de Pastèque-Man suivre des sillons jusqu'à un monte-charge semblable à celui qu'il avait emprunté la veille. 5 minutes plus tard, ils entraient dans un secteur différent. Les parois, jusqu'alors gris métallisées ou blanches, hormis dans sa chambre, étaient ici décorées de couleurs, de motifs géométriques ou des deux. Une salle démesurée abritait 3 piscines. Une centaine de myrmichas étaient présents. La moitié nageait avec uniquement leur pédoncule oculaire et le sommet de leur carapace au-dessus de l'eau. Les autres étaient assis sur les séparations des bassins ou regroupés dans une étrange construction située du côté opposé. Mais nageait-il vraiment? Richard regarda avec plus d'attention et remarqua qu'il ne se déplaçait pas. Il se contentait de s'immerger pendant plusieurs minutes. D'autre part, le contenu de 2 piscines paraissait très épais, de la consistance d'un velouté de légumes, même si le 3e était apparemment plein d'eau. Il suivit des yeux un myrmichat qui plongea successivement dans les 3 bassins, du plus dense au plus fluide. Que font-ils? Et pourquoi me montrent-ils cela? Comme s'il lisait ses pensées, un de ses guides lui tapota le dos pour attirer son attention. Il désigna les piscines, puis la bouche de Richard, qui ne comprit pas le sens de ce message. Le myrmichat descendit s'immerger, puis remonta et se dressa sur ses pattes postérieures pour tapoter son bas-ventre. Ces êtres voulaient visiblement lui faire comprendre ce qui se déroulait en ce lieu. Ils repartirent, puis s'arrêtèrent dans une salle où leurs semblables utilisaient des machines très perfectionnées pour broyer des fibres qu'ils mélangeaient ensuite à de l'eau et d'autres liquides pour préparer une bouillie dont la consistance rappelait le contenu d'un des bassins. Finalement, un des extraterrestres plongea le doigt dans cette soupe, puis toucha les lèvres de Richard. Ils veulent m'indiquer que ces piscines sont leur restaurant. Ils ne mangeraient donc pas de Pastèque-Man? À moins qu'ils n'aient tout simplement un régime plus varié que les aviens. Tout ceci est fascinant. Ils repartirent toujours aussi vite vers un secteur isolé. Il y avait ici une 40aine de créatures de plus petite taille, de toute évidence de jeunes myrmichats qui se livraient à diverses activités sous la surveillance de quelques adultes. Les enfants étaient identiques à leurs aînés, hormis qu'ils n'avaient pas encore de carapace. Richard n'aurait pu jurer qu'il visitait l'équivalent d'une école maternelle, mais il fut certain d'entendre les petits myrmichats répéter à l'unisson un chapelet de sons émis par un adulte. Ils empruntèrent ensuite l'escalier mécanique. Vers le 20e niveau, ils quittèrent ce tapis roulant pour s'engager dans un couloir qui débouchait dans un immense atelier bondé de myrmichats et de machines. Ses guides étaient toujours aussi pressés et Richard ne put étudier comme il l'eût souhaité les divers procédés de fabrication. Cette usine lui faisait penser à une savonnerie. Sans doute à cause des bruits, des odeurs de produits chimiques et du murmure de conversation des ouvriers. Il vit 2 de ces êtres réparer un appareil semblable au pont roulant utilisé pour charger les Pastèque-Man. Une zone était coupée du reste. Ses guides ne le précédèrent pas dans cette direction, mais sa curiosité fut la plus forte. Nul ne s'interposa quand il franchit le seuil de ce secteur où un myrmichat installé dans une grande cabine supervisait une chaîne de fabrication automatisée. Un tapis roulant amenait de fines tiges de métal légers articulées, un autre de petites sphères d'environ 2 centimètres de diamètre. Au point de rencontre des 2 bandes, une grosse machine rectangulaire suspendue au plafond descendit avec un bruit de succion étrange. 30 secondes plus tard, le myrmichat faisait remonter l'appareil et 2 fauches sautaient du tapis et allaient s'installer dans les alvéoles d'un grand carton en repliant leurs longues pattes. Richard assista à plusieurs cycles complets. Ce sont donc les myrmichats qui fabriquent les faucheux. C'est également à eux que l'on doit les cartes et sans doute les vaisseaux spatiaux dont ils se servent avec les aviens. Quel lien unissent ces 2 espèces ? Leurs rapports symbiotiques doivent être très compliqués. Il secoua la tête, alors que l'assemblage des faucheux se poursuivait. Puis il entendit derrière lui les sons qu'il associait désormais au langage des Myrmichas. Il se tourna vers un de ses guides, qui lui tendait une tranche de pastèque manne. Richard était très las. Il ignorait depuis combien de temps il était parti, mais il savait qu'il avait couru pendant des heures. Faire la synthèse de tout ce qu'il venait de voir eût été impossible. Un ascenseur les avait conduits aux étages supérieurs, où ils avaient visité l'hôpital des Aviens, au personnel composé de Myrmichas, ainsi qu'une maternité, où les créatures ailées pondaient des œufs bruns fripés, comme du vieux cuir, sous le regard attentif de médecin Myrmichas. Richard était plus que jamais convaincu qu'il existait des relations symbiotiques complexes entre les deux espèces. Mais lesquelles ? Se demanda-t-il une fois de plus, quand ses guides lui laissèrent le temps de reprendre haleine au sommet de l'escalier mécanique. « Je vois ce que les Aviens ont à gagner, mais pas ce qu'ils peuvent apporter à leurs bienfaiteurs. » Les Myrmichas le précédèrent dans un large couloir vers un grand portail éloigné de plusieurs centaines de mètres. Ils avaient cessé de courir, et à proximité de la porte, ils furent rejoints par trois de leurs semblables qui avaient emprunté de petits passages latéraux. Ils tinrent inconciliabule dans leur étrange langage suraigu, puis se turent brusquement. Convaincu qu'ils étaient d'un avis contraire, Richard observa avec attention leur face quand la discussion reprit. Les plis autour de l'orifice vocalisateur et des yeux ovales étaient identiques. Différencier un Myrmichas d'un autre était impossible. Finalement, ils repartirent vers la porte. De loin, Richard avait sous-estimé ses dimensions. Elle mesurait entre 12 et 15 mètres de haut et plus de 3 de large. Sa surface était finement et magnifiquement ciselée autour d'un carré divisé en 4 panneaux. De gauche à droite et de haut en bas, il voyait la représentation d'un avien en vol, d'un Myrmichas, d'une pastèque manne et d'une chose qui lui faisait penser à de la barbe à papa grumeleuse. Il prit le temps d'admirer cette œuvre d'art. Chose étrange, elle lui semblait familière alors qu'il ne pouvait l'avoir déjà vue. Il caressait l'image du Myrmichas quand il se souvint. Mais oui, au fond du nid des Aviens de Rama II, là où il y avait ses flammes. Puis les battants s'ouvrirent et il fut conduit dans ce qui ressemblait à une grande cathédrale souterraine. Une salle circulaire d'environ 30 mètres de diamètre et 50 de haut s'ouvrait sur 6 nefs séparées. Les murs étaient magnifiques. Il n'y avait pas un seul centimètre carré sans sculpture ou fresque, aux détails reproduits avec un soin inimaginable. C'était d'une beauté à couper le souffle. Le centre était occupé par un podium, d'où un Myrmichas s'adressait à une douzaine de ses semblables assis autour de lui sur leurs quatre pattes postérieures. Richard fit le tour de la salle et prit brusquement conscience que le bas-relief, une bande d'un mètre de haut à 80 centimètres du sol, racontait une histoire. Il le suivit jusqu'à ce qui devait être le début du récit. La représentation d'une pastèque manne. On pouvait voir dans les trois panneaux suivants une forme croître à l'intérieur. Dans le cinquième tableau, la chose avait une petite tête aux yeux ovales surmontée de pédoncules et sortait du fruit. La sixième image, d'un être identique au jeune Myrmichas vu un peu plus tôt, confirma ses suppositions. Seigneur, les pastèques manes sont des œufs de Myrmichas. Ses pensées s'emballèrent. Mais c'est absurde. Leurs voisins s'en nourrissent et ils m'en servent à chaque repas. Tout cela me dépasse. Sidéré, il s'assit sur le sol pour réfléchir. Il n'existait sur Terre aucun équivalent d'une telle symbiose. Et qui aurait pu entretenir des rapports de bon voisinage avec des êtres qui se nourrissaient exclusivement de leurs œufs? Richard finit par conclure que les principes fondamentaux de la biologie terrestre ne devaient pas être applicables à toutes les planètes. Il n'avait pas terminé d'analyser ce qu'il venait d'apprendre que les Myrmichas se regroupèrent autour de lui et lui firent signe de se lever. Une minute plus tard, il descendait une longue rampe hélicoïdale conduisant à une crypte aménagée dans le sous-sol de la cathédrale. Pour la première fois depuis son entrée dans la partie inférieure du cylindre, Richard se retrouvait en des lieux faiblement éclairés. Ses guides avançaient sans hâte excessive, presque avec recueillement, vers le bas d'un large passage voûté. À son extrémité, une double porte donnait sur une vaste salle emplie d'un matériau blanc duveteux. Bien que cette substance cotonneuse fût très dense, ses filaments étaient arachnéens, hormis là où ils formaient des sortes de ganglions répartis selon un ordre indéfinissable. Ils s'arrêtèrent sur le seuil, à un mètre environ de la chose qui s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. Pendant que Richard l'observait, ce qui la composait se déplaça lentement. Un tunnel s'ouvrit pour donner accès au cœur de la masse filamenteuse. « C'est vivant !» comprit Richard en sentant son pouls s'emballer. 5 minutes plus tard, il avait devant lui une allée assez large et profonde pour lui permettre de pénétrer sur 10 mètres dans le cocon. Il secoua la tête. « Désolé les gars, mais ça ne me tente pas du tout. On pourrait peut-être sauter cette étape si ça ne vous ennuie pas. » Les Myrmichas tendaient leurs pattes. Ils n'avaient pas le choix. « Qu'est-ce que ce machin va me faire ?» se demanda-t-il en faisant un pas. « Me manger ?» Si c'était pour en arriver là, il ne se serait pas donné la peine de tout me faire visiter au préalable. Il regarda derrière lui. Les Myrmichas n'avaient pas bougé. Il avança jusqu'au bout du passage. Où il était, il n'aurait eu qu'à tendre le bras pour toucher un des étranges ganglions du cocon vivant. Ce qui l'entourait se déplaça à nouveau, et il se tourna pour voir le tunnel se refermer derrière lui. Il voulut courir vers la sortie, mais dépensa en vain son énergie. Le filet se refermait sur lui, et il se résigna. Il resta immobile pendant que les filaments l'enveloppaient. Il ne devait pas avoir plus d'un millimètre de diamètre, et il se tressait autour de son corps, lentement, inexorablement.
« Attendez !» pensa-t-il. « Vous allez m'étouffer !»
Mais bien que des centaines de fils se soient déjà refermés sur sa tête et son visage, il respirait aisément. Avant que ses mains ne soient immobilisées, il tenta de détacher un des filaments de son bras. Ce fut difficile, car il pénétrait sous sa peau. Et quand il en arracha un fragment, son épiderme vint avec. Il baissa les yeux sur son corps et estima qu'un million de telles extensions de la chose s'étaient déjà glissées en lui. Il frissonna. Qu'il n'eût pas suffoqué l'étonnait encore. Il se demandait comment de l'air parvenait toujours à ses poumons quand une voix intérieure s'adressa à lui. « Cesse de vouloir tout analyser. Tu ne peux comprendre. » Pour une fois, contente-toi de vivre cette aventure fantastique.